parmi les personnes qu'on est content de voir, c'est-à-dire tout le monde, hein. Mais on est heureux que Harry ait pu rentrer sain et sauf d'Ukraine. Il était là-bas, comme vous savez, c'est quand même pas la situation la plus stable. On est heureux de le revoir. En parlant d'autres pays, comme en fait pas mal de monde dans cette église, j'ai eu, je prends ça comme une chance, la chance d'avoir de naître avec deux nationalités, américaine par mon père, française par ma mère. Et pendant longtemps, lorsque j'étais enfant, on m'a dit que je devrais choisir ma nationalité à l'âge de 18 ans, parce qu'à l'époque, c'était le cas. Les États-Unis, en tout cas, ne permettaient pas la double nationalité au-delà de la majorité. Heureusement pour moi, je n'ai finalement pas eu à faire ce choix, puisque la loi du côté des États-Unis a changé, et j'ai pu finalement conserver, encore aujourd'hui, mes deux nationalités. Mais il arrive qu'il faille choisir dans la vie. Et souvent, l'indécision est néfaste. Et s'il y a bien un domaine où il faut choisir, c'est celui de la relation avec Dieu. Nous continuons à examiner et méditer ensemble la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur le chapitre 6, pour l'essentiel, également les quatre premiers versets du chapitre 7. Et donc, je vous invite à lire avec moi, si vous le voulez bien, 2 Corinthiens 6. Pour ceux qui voudraient utiliser les Bibles bleues, c'est à la page 1130, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1 et donc jusqu'au chapitre 7, verset 4. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet d'achoppement à personne pour que le ministère ne soit pas pris en défaut. Mais nous nous recommandons nous-mêmes à tous égards comme ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance dans les détresses, dans les désarrois, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux pénibles, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté, dans l'Esprit Saint, dans un amour sans hypocrisie, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, par la gloire et le déshonneur, par la mauvaise et la bonne réputation. Regardez comme imposteur, quoique vrai, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et pourtant nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, quoique toujours joyeux, comme pauvre, alors que nous faisons beaucoup de riches, comme n'ayant rien, quoique possédant tout. Nous vous avons parlé librement, Corinthiens. Notre cœur s'est largement ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais c'est dans vos propres sentiments que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-vous largement, vous aussi. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Faites-nous une place. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela, car je l'ai déjà dit, vous êtes dans notre cœur pour la mort et pour la vie. J'ai une grande assurance à votre égard. Je suis très fier de vous. Je suis comblé d'encouragement. Je déborde de joie au milieu de toute notre détresse. Je vous soumets que l'idée centrale de l'apôtre Paul dans ce texte, c'est « il faut choisir ». Et je vous propose d'examiner trois choix qu'il invite les Corinthiens à faire. Choisir l'évangile, d'abord. Choisir la confiance, ensuite. Et choisir la sainteté, enfin. Choisir l'évangile, donc, d'abord. La semaine dernière, nous avons vu combien l'apôtre Paul insiste sur la puissance que Dieu manifeste par la proclamation de l'évangile. Lorsque la bonne nouvelle, qui a été rappelée déjà plus tôt dans ce culte, la bonne nouvelle du pardon des péchés et de la vie nouvelle par Jésus-Christ, lorsque cette bonne nouvelle est annoncée aux hommes, c'est Dieu qui, par les proclamateurs, par ses serviteurs, adresse son appel « Laissez-vous réconcilier avec moi ». Ça, c'est à la fin du chapitre 5, verset 20. « Laissez-vous réconcilier avec moi ». Mais certains Corinthiens avaient du mal à choisir entre l'évangile et les valeurs dominantes de leur époque. On sait que la culture hellénistique de l'époque, qui était dominante à Corinthe, cette culture mettait en valeur la force, les discours impressionnants, les apparences. Et cette influence, elle était, semble-t-il, au cœur des enseignements déviants apportés par certains hommes que Paul appellera avec ironie les super apôtres. À cause de cette influence, à la fois de la culture et de ces faux enseignants qui profitaient de la culture, à cause de cela, les Corinthiens étaient tentés de rejeter l'apôtre Paul, certains d'entre eux en tout cas. Paul, qui n'était pas particulièrement impressionnant par son apparence, qui portait sans doute, il y a des indices de cela, les marques physiques des persécutions subies. Paul, qui semble non plus ne pas avoir été connu pour son art du discours, à l'oral en tout cas, constamment persécuté, placé dans des situations de faiblesse parce qu'il annonçait l'évangile du Christ. Et donc, ça ne cadrait pas avec les belles apparences et les choses impressionnantes que certains Corinthiens attendaient. Mais pour Paul, le problème ne concerne pas sa personne, mais l'attitude des Corinthiens face au message dont il est le porteur. L'apôtre veut que les Corinthiens prennent conscience que les enjeux de ce message sont considérables. L'évangile que Paul annonce détermine la vie et la mort spirituelle, tout simplement, de ceux qui l'entendent. Question de vie ou de mort. Paul l'a rappelé au chapitre 19 du chapitre précédent. À la croix, dit-il, c'est Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. À la croix, c'est Dieu qui était là, dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. Le message de la croix de Jésus-Christ, donc, est incontournable, parce que c'est à la croix que Dieu accorde son pardon pour toujours. C'est à la croix qu'il se réconcilie avec les hommes, et pas ailleurs. Il s'agit de connaître une vie nouvelle avec Dieu, à la croix, par la croix, ou bien de se perdre pour toujours loin de lui. Et ce message n'est pas modulable selon la préférence de chacun. Il s'agit d'un message de salut. Si un jour je devais me retrouver gravement blessé, j'imagine mal dire au SAMU, aux ambulanciers qui viennent me secourir, non, c'est pas comme ça que je voulais être secouru. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Recommencez. Faites autrement. Par définition, lorsqu'on vient sauver quelqu'un, on le fait d'une manière bien précise, qui répond aux besoins, et non pas en donnant une liste de 4 ou 5 options. Vous voulez être sauvé comme ceci, comme cela, comme cela. Et c'est pour cela qu'au début de notre texte, chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul poursuit son plaidoyer, puisque nous sommes ses collaborateurs, c'est-à-dire les collaborateurs de Dieu dans le contexte. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Ce par quoi il faut comprendre, je pense, ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Et l'apôtre poursuit en citant un verset tiré du prophète Ésaïe, chapitre 49, verset 8. « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Et par cette citation, Paul veut insister sur l'urgence de cet appel de Dieu à la réconciliation. Cet appel dont il est, lui, Paul, le porteur, l'un des porteurs. Et il conclut avec force, « Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Autrement dit, Dieu vous offre tout. Vous qui étiez pécheur, vous pouvez devenir juste à ses yeux, pardonné entièrement. Dieu vous appelle à vivre une vie nouvelle avec lui, à ne plus jamais vivre loin de lui et à ne plus jamais vivre sous la condamnation de sa sainte justice. Dieu vous offre tout, mais c'est tout ou rien. On ne peut pas, d'un côté, vouloir connaître Dieu et en même temps rejeter l'initiative qu'il a prise pour se faire connaître de nous. Et cette exhortation à choisir l'évangile est plus que jamais actuelle pour nous, à une époque où, au moins autant, peut-être plus qu'à Corinthe au 1er siècle, le syncrétisme est roi. Chacun fait son petit mélange de philosophie, de spiritualité, un peu comme dans un self-service, on prend ce qu'on aime, on laisse de côté ce qu'on ne veut pas. Et même nous, pour nous qui sommes chrétiens engagés, sans aller complètement dans ce sens, il peut nous arriver d'être tout de même un peu influencés par cette façon de penser. Or, on ne peut pas être sympathisant de Jésus-Christ. Alors, on peut de l'extérieur commencer, bien sûr, à s'intéresser à Christ et cheminer vers lui. Merci Seigneur. Mais ce chemin, il doit aboutir. On ne peut pas en rester là. Jésus nous appelle à être ses disciples et non pas ses sympathisants ou ses fans. Jésus nous appelle à le confesser comme Seigneur de leur vie, propriétaire de leur vie. Et il ne nous donne pas une liste de plans B, C et D. Faut-il le préciser, il ne s'agit pas de fermer ses yeux et ses oreilles à tout message, tout enseignement qui ne soit pas explicitement chrétien. Il y a cette parole bien connue, toute vérité est vérité de Dieu. Dieu est la source de toute vérité, même lorsque la vérité ou une partie de la vérité est annoncée ou est explicitée dans un cadre non chrétien. On voit dans le livre des Actes que l'apôtre Paul lui-même est entré en dialogue avec des philosophes stoïciens et épicuriens de son temps. Il n'a pas dit « je ne veux pas entendre ça », il a au contraire dialogué avec eux. Mais ce n'était pas un dialogue infini, histoire de dialoguer. Pour l'apôtre, toute pensée, toute réflexion, toute philosophie ne trouve de sens ultime que lorsqu'elle est soumise à l'autorité de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il écrit plus loin dans notre lettre. Chapitre 10, versets 4 et 5. « Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. » La Bible nous place devant un choix essentiel et fondamental, celui de savoir si nous reconnaîtrons Jésus-Christ comme Seigneur, si nous recevrons par la foi cette affirmation renversante selon laquelle, par sa mort à la croix, Dieu a condamné le mal en faisant de Jésus-Christ son Fils unique notre substitut devant sa justice, pour que nous puissions être pardonnés et rétablis en relation avec lui. Soit c'est l'histoire la plus tordue qui était inventée dans toute l'histoire de la pensée, soit c'est la vérité qui donne sens à toutes les vérités. Il faut choisir. Et Paul ajoute, il faut choisir maintenant. Pas se dire, oui, je réfléchirai à ça plus tard lorsque les circonstances de ma vie rendront cette réflexion plus propice. Peut-être au crépuscule de ma vie, je commencerai à me poser ces questions, mais là, c'est vraiment pas d'actualité. Non, c'est maintenant le temps vraiment favorable, verset 2. C'est maintenant le jour du salut. Et je voudrais m'adresser, peut-être tout particulièrement, ce matin à ceux et celles parmi nous, il y en a peut-être, sans doute quelques-uns, qui d'une façon ou d'une autre sont des sympathisants de la foi chrétienne. Vous n'avez rien contre, et même vous trouvez qu'il y a là de belles choses et des choses sans doute vraies, mais vous n'avez peut-être pas encore pleinement saisi que c'est Dieu qui était en Christ à la croix, que c'est lui qui vous appelle à faire demi-tour et à lui donner votre vie entière pour le suivre. Il me semble que par la voix de Paul, c'est Dieu qui vous adresse son appel. N'attendez plus. Il faut choisir entre l'évangile de Jésus-Christ et la perdition. Après avoir écrit ces paroles graves, l'apôtre Paul va s'empresser de redire son affection pour les Corinthiens et son désir de les voir passer de la méfiance et des polémiques en tout genre à la confiance et à l'amour. Et c'est notre deuxième point, choisir la confiance. Je me souviens d'une situation il y a assez longtemps, plusieurs années, où je me suis trouvé dans une situation tendue avec une personne A. Et je parlais à une personne B de ce problème. Et cette personne B m'a demandé plusieurs fois au cours de la conversation, est-ce que tu pries pour personne A ? Est-ce que tu pries pour lui ? Est-ce que tu pries pour lui ? Sur le moment, je l'ai un peu mal vécu. J'avais envie de dire, mais arrête de me demander si je prie pour lui. Je te parle d'un problème avec cette personne. Mais je reconnais aujourd'hui que cet ami a fait preuve d'une véritable sagesse en ramenant le problème à ma relation avec Dieu. Et c'est ce que Paul fait dans la suite du chapitre 6. Certains à Corinthe ne lui font pas confiance et Paul ne cesse de leur montrer que cette attitude est symptomatique de leur attitude envers Dieu. Dans la mesure où Paul est porteur du message de Dieu, leur défiance envers Paul montre leur défiance envers celui qui a envoyé Paul en mission, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alors oui, c'est vrai que dans cette section, à partir du verset 3 notamment, Paul va tenter de rebâtir la confiance entre lui et les Corinthiens. Mais on voit qu'il le fait avant tout pour que les Corinthiens se rappellent qui est Dieu et fassent à nouveau confiance à Dieu. À partir du verset 3, donc, l'apôtre se lance dans un plaidoyer pour l'authenticité de son ministère. Et ce qui est frappant, et qui doit retenir notre attention, c'est qu'il n'utilise pas des arguments faciles. Il n'utilise pas les arguments qui auraient été les plus convaincants, a priori, pour les Corinthiens. Rappelons que l'un des problèmes à Corinthe, c'est le goût pour ce qui frappe les yeux, les discours impressionnants, la prospérité visible, la force. Et donc, on pourrait imaginer que Paul plaide sa cause en disant « Mais j'ai accompli tel miracle, j'ai fait telle chose, j'ai eu tel discours percutant ce jour-là. » Or, voyons comment il va commencer à plaider sa cause en tant qu'apôtre de Dieu. Je lis à partir du verset 4. « Nous nous recommandons nous-mêmes à tous égards comme ministres de Dieu. » On hésite, est-ce que c'est un « nous » qui en fait désigne Paul, comme c'était une formule littéraire qu'on utilisait à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, ou bien est-ce que Paul s'associe aux autres apôtres, c'est sans doute plus probable. Nous nous recommandons nous-mêmes à tous égards comme ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance dans les détresses, dans les désarrois, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux pénibles, dans les veilles, dans les jeûnes. Plusieurs indices dans la lettre laissent entendre que les faux enseignants arrivaient à Corinthe, ou étaient arrivés à Corinthe, avec des lettres de recommandation. Et donc il semble que Paul ici fasse preuve d'ironie en écrivant « Nous nous recommandons nous-mêmes ». C'est un peu comme si Paul écrivait aux Corinthiens « Vous voulez ma lettre de recommandation ? Vous voulez mon CV ? Alors allons-y. Détresse, désarroi, angoisse, coup, prison, désordre, veille, jeûne. » Pourquoi est-ce que Paul va ainsi à contre-courant, à ce point à contre-courant des attentes des Corinthiens ? Alors que justement, il veut rebâtir la confiance. Et c'est tentant, lorsqu'on veut rebâtir la confiance, de se dire « Ah ben, je vais utiliser précisément cet argument qui va parler le plus à mon interlocuteur. » Mais Paul veut que les Corinthiens fassent confiance à Dieu avant tout, et non pas à leur fausse conception de Dieu, autrement dit à leur idole. Paul veut que les Corinthiens lui fassent confiance, non pas parce qu'il serait lui porteur d'une lettre de recommandation ronflante, mais parce qu'il est le serviteur d'un Seigneur que le monde rejette, mais qui a vaincu le monde. Paul veut profiter de l'occasion pour corriger la vision que les Corinthiens ont de Dieu et de son évangile. Oui, les apôtres souffrent, mais pas en vain. Ils souffrent parce qu'ils sont porteurs d'un message puissant qui remet profondément en question les fondements du monde incroyant. Et Paul ne mentionne pas que les épreuves. À partir du verset 6, il évoque aussi la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit Saint, l'amour, la vérité, la puissance. Il en arrive quand même à la puissance, mais après avoir bien montré de quelle puissance il s'agit. Ensuite, comme il l'a déjà fait plus tôt, il énonce à partir du verset 8 une série de paradoxes. Paul se recommande aussi par la gloire et le déshonneur, par la mauvaise et la bonne réputation. Regardé comme imposteur, quoique vrai, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et pourtant, nous vivons. Paul n'était peut-être pas un grand orateur, mais il avait quand même une belle plume, il faut le reconnaître. Une série de paradoxes qui montrent que là où les Corinthiens voient le déshonneur, Dieu, lui, voit la gloire. Là où le monde les considère comme des inconnus, Dieu, lui, les connaît bien. Là où le monde les considère comme mourants, insignifiants, Dieu, lui, atteste qu'ils vivent et que c'est la vie que leur message communique. Paul et ses collaborateurs n'avaient rien à gagner de leur ministère à vues humaines. Au contraire, ce ministère les exposait sans cesse aux difficultés. Mais comme il l'a écrit plus tôt, ils étaient les ambassadeurs, chapitre 5, verset 20, les ambassadeurs d'un Dieu qui dérange, d'un Dieu qui ne rentre pas dans le moule de ce monde, d'un Dieu qui ne se laisse pas définir par les catégories humaines de spiritualité. Paul veut donc rétablir la confiance, mais pas une confiance mal placée. Une confiance placée, on ne peut mieux, dans le Dieu de la Bible. Et puis alors, au verset 11 et 12, et également au début du chapitre 7, il fait parler son émotion. Et là, pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour voir que Paul était un émotif. Je lis au chapitre 6, verset 11. « Nous vous avons parlé librement, Corinthiens, notre cœur s'est largement ouvert. » Verset 13, « Ouvrez-vous largement. » Chapitre 7, verset 2, « Faites-nous une place. » Sous-entendu, dans votre cœur. Verset 3, « Vous êtes dans notre cœur pour la mort et pour la vie. » Verset 4, « J'ai une grande assurance à votre égard. Je suis très fier de vous. Je suis comblé d'encouragement. Je déborde de joie au milieu de toute notre détresse. » Est-ce que nous pourrions parler ainsi de nos frères et sœurs ici présents? Est-ce que, à propos de la personne qui est à quelques bancs de vous, vous pourriez dire « Vous êtes, tu es dans mon cœur pour la mort et pour la vie. » Or, quand Paul demande aux Corinthiens de lui ouvrir leur cœur, il leur demande d'ouvrir leur cœur à Dieu, avant tout, là encore. Vous vous souviendrez peut-être que Paul a déjà parlé du cœur à plusieurs reprises, notamment au chapitre 3. Chapitre 3, verset 3. « Vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. » Si Paul veut que le cœur des Corinthiens soit grand ouvert, ce n'est pas seulement par un élan affectif, même si clairement il y a cela, mais c'est avant tout pour que Dieu puisse graver l'évangile dans leur cœur. Et c'est un bon rappel pour nous qu'il y a toujours un lien entre l'état de nos relations fraternelles et l'état de notre relation avec Dieu. Si nous nous aimons mal les uns les autres, il est inévitable que nous aimerons mal Dieu. Si la méfiance règne entre nous, eh bien, même si nous ne nous en rendons peut-être pas compte, nous méfierons. Nous nous méfions aussi de Dieu. Nous nous méfions de Dieu et nous ne semblons pas croire en l'œuvre qu'il fait dans la vie des uns et des autres. Donc, si nous voulons apprendre à mieux aimer Dieu, aimons-nous les uns les autres. Il n'y a pas de meilleur entraînement pour l'amour de Dieu que l'amour fraternel. Paul tient absolument à ce que sa relation avec les Corinthiens soit rétablie, mais avant tout pour que leur relation avec Dieu soit elle aussi guérie. Et j'en viens à mon troisième et dernier point, choisir la sainteté. Au verset 14, beaucoup de commentateurs pensent que Paul change complètement de sujet pour y revenir ensuite plus loin, voire que ces versets 14 à 19 proviennent d'une autre lettre de Paul et auraient été en quelque sorte copiés-collés ici. Paul vient de défendre son ministère, il vient d'inviter les Corinthiens à ouvrir leur cœur, et là, tout d'un coup, il évoque les relations avec les non-croyants, le danger de former avec eux un attelage disparate, il faudra élucider ce qu'il veut dire par là. Quel rapport ? Alors, est-ce qu'il parle du mariage avec une personne non-croyante ? Est-ce qu'il parle de relations d'affaires avec des non-croyants ? Je vous livre ici une interprétation qui me semble plus convaincante, ce n'est pas moi qui l'invente. Il me semble que ces suggestions ne sont pas convaincantes et qu'on peut très bien comprendre ce texte dans le contexte immédiat. Depuis le début de la lettre, Paul met en garde les Corinthiens contre l'enseignement des faux apôtres, ces super apôtres. Et à propos de ces enseignants, Paul ne mâche pas ses mots. Écoutez d'ailleurs comment il les décrira plus loin au chapitre 11. « De tels individus sont des apôtres du mensonge, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. » Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est pas simplement des gens avec qui il avait un désaccord. Pour Paul, le problème de ces faux enseignants est extrêmement grave. Pourquoi ? Eh bien parce que ces hommes, c'est sans doute dans le contexte de l'époque d'hommes pour l'essentiel, diffusent une théologie qui, sous couvert d'enseignements sophistiqués, s'oppose à l'évangile, complètement, et menace donc de détourner les Corinthiens de cet appel puissant de Dieu. Et on a vu que les enjeux sont gravissimes. Il faut choisir, verset 14, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal ? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord entre Christ et Bélial ? Un mot du langage juif de l'époque pour désigner l'adversaire, Satan. Paul rappelle à partir du verset 16 que l'Église est le peuple de Dieu, celui parmi lequel il a établi sa résidence. Il est inconcevable que le peuple de Dieu prétende adorer Dieu tout en se vouant aux idoles de son époque. Il me semble donc que dans ce texte, Paul ne change absolument pas de sujet. Il exhorte les Corinthiens, une fois encore, à faire le bon choix. Le choix de l'évangile authentique. Le choix, on va le voir, de la sainteté. Parce que ce choix cohérent, ce choix entier de la fidélité de Dieu, c'est le cœur même, c'est au cœur même de la notion biblique de sainteté. La sainteté, on peut la décrire de diverses façons, mais c'est avant tout l'appartenance exclusive à Dieu, la consécration à Dieu. Alors il faut tout de suite dire que le Nouveau Testament nous enseigne clairement que cette sainteté, elle nous est donnée par Dieu, grâce au sacrifice de Christ à la croix. Elle ne vient pas de nos propres efforts. En tout cas, ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons être déclarés saints par Dieu. C'est Dieu qui nous consacre à lui. Mais une fois que nous avons reçu cette grâce, par laquelle Dieu nous revendique comme propriété exclusive, nous sommes appelés à rechercher la sainteté dans notre manière de vivre, à vivre en cohérence avec ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Alors je vais prendre un exemple très trivial, hein, comme toutes les illustrations, elle a beaucoup de limites. Pour les amateurs de football, je sais qu'il y en a pas mal. Si un club de football signe un contrat avec un joueur, ce joueur lui appartient, entre guillemets, hein, pas dans un sens ontologique, mais enfin au sens commercial du terme, ce joueur lui appartient dès le jour de la signature du contrat. Mais si le contrat est signé, c'est pas pour que le joueur reste à la maison, mais c'est pour qu'il aille sur le terrain. Donc il y a une réalité juridique qui fonde la relation, mais cette réalité juridique, elle implique inévitablement et par définition une réalité vécue. Paul écrit au verset 16, « Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant ». Et c'est frappant de voir qu'il n'écrit pas « Soyons le sanctuaire du Dieu vivant », mais « Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant ». La décision a déjà été prise souverainement par Dieu. Mais cela n'empêche pas Paul d'insister ensuite sur la nécessité de manifester cette appartenance à Dieu par une vie sainte, c'est-à-dire une vie qui ne se vit pas à cheval entre Dieu et les idoles du monde, mais qui appartient entièrement à Dieu. Si notre interprétation de ces quelques versets est correcte, si Paul vise en premier lieu ici les faux enseignements qui circulent à Corinthe, cela nous permet de mettre de côté certaines interprétations courantes du texte. Tout d'abord, il semble peu probable que Paul parle ici du mariage entre une personne croyante et une personne non croyante. Le mot mariage n'est jamais prononcé, n'est jamais écrit. Rien dans ce texte ne l'évoque. Par contre, et là je veux insister là-dessus, ce que Paul écrit ici a des conséquences sur tous les choix de vie, y compris un choix aussi important que celui du mariage. Donc, même si cela ne semble pas être le propos premier de Paul dans ce texte, ce qu'il dit a des conséquences sur cette question. Dans toute cette section, Paul insiste sur la nécessité de se donner entièrement à Dieu, de ne pas être partagé entre l'allégeance à Dieu et d'autres allégeances. Lorsqu'on aborde ce sujet, on risque tout de suite de créer le malaise, marcher sur des œufs. Mais il me semble que le texte, il me semble en tout cas qu'il est bon à ce sujet d'en dire quelques mots. Encore une fois, ce n'est pas le propos premier du texte, mais ce que le texte nous enseigne a des conséquences pour cela. Et il faut poser la question, est-il cohérent d'affirmer qu'on donne sa vie à Jésus-Christ, tout en partageant ce qu'on a de plus intime, ce qu'on a de plus proche avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur et qui ne partage pas notre espérance. Comment va-t-on avancer d'un même pas face aux grandes et aux petites décisions de la vie lorsque la vision fondamentale du sens même et du but de la vie n'est forcément pas la même? Ce n'est pas une question de sectarisme, c'est une question de sagesse, c'est une question de cohérence. Je ne parle pas ici des familles déjà constituées avant une conversion, et surtout je dis tout cela avec sensibilité, je l'espère, pour la réalité des situations humaines qui existent, en affirmant et en rappelant que Dieu est un Dieu de grâce, qui peut aussi bénir des personnes et des couples malgré des départs non conformes à ce qu'enseigne la parole. Donc il faut rappeler bien sûr cela. Mais cette grâce ne doit pas être une excuse pour s'affranchir de la sagesse de la parole de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Une autre interprétation de cet extrait, c'est que Paul invite les chrétiens à se séparer vraiment, littéralement, à vivre leur vie en communauté fermée. Il y a des mots très forts dans la citation que Paul fait, « ne touchez pas ce qui est impur », etc. Mais d'une part, un tel séparatisme ne cadre pas avec le reste du Nouveau Testament, y compris avec ce que Paul lui-même écrit par ailleurs. Par exemple, dans sa première lettre aux Corinthiens, il écrit explicitement qu'il ne demande pas aux Corinthiens de se retirer du monde. Et dans le contexte, il ne leur demande pas de ne pas entretenir de relations amicales avec des non-croyants. 1 Corinthiens 5:10. Paul ne demande pas cela. Et on voit bien, lorsqu'on voit le ministère de Jésus, que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas limité ses relations et ses dialogues et son amitié aux personnes qui étaient d'emblée d'accord avec lui. En revanche, ce que Paul écrit ici, c'est qu'il demande aux Corinthiens de ne pas laisser de place dans leur vie à la pensée dominante de ce monde, à ses idoles et à ses comportements. Ce qui nécessite beaucoup de sagesse dans la gestion des relations avec les non-croyants, mais qui n'invalide en rien ces relations. Qu'en est-il de nous ? Alors, je m'adresse d'abord aux chrétiens engagés parmi nous. Nous parlons souvent de notre désir de témoigner. Nous parlons souvent de notre désir d'annoncer l'évangile autour de nous, et c'est essentiel. Mais nous devons aussi nous poser la question de savoir si nos vies proclament Christ. Il faut choisir. Choisir l'évangile et non pas les visions du monde qui s'opposent à lui. Choisir la confiance entre nous et envers Dieu plutôt que la méfiance et les polémiques. Choisir la sainteté et non le partage entre Dieu et le monde. Que Dieu nous donne la grâce d'être ces hommes et ces femmes qui savent choisir. Et si certains ici n'ont pas encore fait le choix de confier leur vie à Jésus-Christ, eh bien ma prière, notre prière en tant qu'Église, c'est qu'ils prennent au sérieux, c'est que vous preniez au sérieux ces paroles de l'apôtre au chapitre 6, verset 2. C'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut.